Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant une grosse trentaine de minutes pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Bah bien sûr, comme vous en avez l'habitude maintenant tous les lundis, mes deux acolytes sont avec moi, Loïc et Christian. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment ça va ce week-end? Avec cette courte défaite du SA15.
Eh ben écoute, moi un peu triste hein, forcément et puis un peu déçu. Toi Christian, pareil.
Oui forcément, c'est un match qu'on attendait impatiemment du fait que ce soit la reprise du bloc et puis il y avait cette petite revanche entre guillemets à prendre par rapport au match contre Dax, donc forcément un peu déçu du résultat.
Tout à fait. Ben écoutez, si vous voulez messieurs, on va lancer le sommaire de l'émission.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Et oui, au sommaire ce soir, nous allons revenir sur cette courte défaite du SA15, mais défaite tout de même, et on va en parler en long, en large et en travers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. On a vu les limites du SA15. Suivra un petit focus sur la Coupe du Monde, et notamment sur nos deux représentants du SA15, qui jouent l'un pour le Chili, Iñaki Ayarza, et l'autre pour le Portugal, Nicolas Martins, qui d'ailleurs, Nicolas Martins, n'en finit pas de surprendre. Enfin, quand on dit surprendre, il surprend pas tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui s'y attendaient un petit peu, mais en tout cas, les gens qui ne le connaissaient que très peu. Et Loïc, on a une surprise hein, en fin d'émission. Je te laisse annoncer la fin de notre sommaire.
Ouais, on aura une petite surprise avec un invité connu par les supporters du SA15, parce que ça fait quelques temps maintenant qu'il est là et qu'il adore ce club. Ça sera Iñaki Ayarza qui sera avec nous en collaboration avec Post Rugby, où on l'a un peu interrogé sur la Coupe du Monde, mais aussi son point de vue sur cette saison du SA15 et sur le nouveau staff mis en place.
Ouais, donc surtout restez avec nous pour cette fin d'émission. Eh ben, vous aurez des nouvelles toutes fraîches d'Iñaki Ayarza en direct du Mondial, bien sûr, qui se déroule en France et qui se passe évidemment pas très très bien pour le Chili, mais bon, ils apprennent et ils sont contents d'être présents à la Coupe du Monde en France. Eh bien écoutez, si vous voulez bien messieurs, on va lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Mag Attitude, le débrief du match.
Messieurs, on souhaitait une victoire du SA15 face à une équipe de Montauban qui a quand même du mal à se déplacer, même si on sait que cette année, cette équipe s'est énormément renforcée. Christian, on espérait voir un SA15... enchaîné sur sa belle prestation à l'extérieur, à domicile, non à l'extérieur, oui, je dis des bêtises. Et malheureusement, le SA15 a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal face à une belle équipe de Montauban.
Oui, parce que c'est Montauban qui ouvre le score dès la 8e minute, un essai marqué par Joshua Vici. Montauban mène 5-0. Ben Botica réduit l'écart entre les deux équipes avec une pénalité à la 11e minute. Montauban ne mène plus que 5-3, mais Montauban va rapidement marquer un deuxième essai dans la foulée, un essai de Rayac transformé par Bosviel, si bien que Montauban reprend le large 12-3 à la 14e minute. Ben Botica remet le SA15 à 6 points avec une pénalité des 40 mètres plein axe, 12-6 pour le SA15, puis 11-12 pour Montauban, puisque Germoni va marquer un essai que transforme Botica, et le SA15 à la 27e minute prend l'avantage pour la première fois du match, 13-12. Bosiel pour Montauban dans une première mi-temps avec beaucoup de points redonne l'avantage à Montauban, 15-13, puis c'est au tour de Botica qui redonne à son tour l'avantage au SA15, 16-15 à la 34e minute. À noter d'ailleurs en première mi-temps deux sorties sans changement sur blessure malheureusement, avec les sorties de Ben Botica et de Germoni, et si c'est donc du coup Montauban qui termine le mieux la mi-temps puisque Vici va marquer son deuxième essai du match à la 35e minute, un essai transformé par Bosiel, donc 22-16 pour Montauban, si bien que malheureusement Vici il a fait honneur à son expression favorite Veni Vidi Vici, et si bien qu'à la mi-temps donc c'est Montauban qui mène 22-16.
Loïc, une équipe du SA15 qu'on a, enfin moi personnellement, trouvé bien plus faible que cette équipe de Montauban qui a dominé à peu près dans tous les secteurs du jeu, puis qui surtout dès qu'elle est rentrée dans les 22 du SA15 a scoré cette première mi-temps. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi j'avais l'impression vraiment de voir une équipe de Pro D2, une équipe presque nationale vraiment qui luttait mais qu'on sentait finalement sans solution.
Mais en fait il faut voir quand même que l'intersaison a bien marché pour Sapiac, pour Montauban, parce qu'ils ont énormément bien recruté là-dessus. Nous, c'est vrai que j'ai été vraiment déçu de cette première période parce qu'il y avait des trous dans cette défense, notamment sur les lignes arrière où c'était vraiment pas ça. L'autre souci, c'est que à chaque fois qu'on marquait des points, que ça soit par Ben Botica ou par Sobus, eh bien de suite après, on se prenait soit des points, soit un essai. En fait, on n'était pas remis en place. À chaque fois, on n'était pas remis en place. Donc, sur le coup de renvoi, à chaque fois, on se prenait une pression et on perdait la balle. C'est ça qui où il faut travailler la prochaine fois. Ensuite, on peut voir qu'on a une équipe qui est faible au niveau de l'effectif, parce que on parlait, enfin, du moins en conférence de presse, vous l'entendrez tout à l'heure, qu'il y a pas mal de blessés dans cette équipe, que ça va revenir au fur et à mesure. Mais bon, quand tu vois que Ben Botica, il sort, c'est plus la même équipe. Surtout qu'il y avait personne pour le remplacer en 10. Donc c'est Beau qui est rentré à la place du 9. Son bus qui est passé en 10. Donc c'est un peu compliqué quand on joue comme ça sur un match aussi important à la maison. Mais bon, on espérait quand même un retour du SA15 pour cette seconde période.
Et la seconde période, Christian, a été un peu meilleure, mais bon, elle n'a pas été à la hauteur des espérances des spectateurs du SA15.
Oui, parce que c'est le SA15 qui marque les premiers points de cette deuxième mi-temps avec une pénalité de Manu Sobus aux 45 mètres. Hein. Manu Sobus ne tremble pas et permet au SA15 de revenir à 3 petits points. 22-19, on joue à la 45e minute, 60e minute. Pénalité de Boziel pour Montauban, 25-19. Il viendra l'essai de Nakiri à la 70e minute, un essai qui est transformé par Sobus. Le SA15 prend l'avantage à 9 minutes de la fin, 26-25. Malheureusement, c'est un avantage qui ne tiendra pas, puisque Fortunel d'un drop. Finalement, ça c'est assez drôle, puisque ça rappelle le drop l'an dernier du Gald contre ces mêmes Montalbanais. Donc, drop de Fortunel à la 76e minute et pénalité de Fortunel à la 78e minute qui conclut le score. Victoire 31-26 pour Montauban. Un match où il y a eu pas mal de cartons quand même, hein. Carton jaune pour Tuculé de Montauban à la 19e minute. Carton jaune également pour Viga pour Montauban à la 23e minute. Un carton jaune pour Mo pour le SA15 à la 57e minute. Et un carton rouge à la 68e pour Galala. Donc finalement, c'est dommage de s'être incliné alors que le SA15 avait réussi, entre guillemets, la remontada. Et c'est de s'incliner à 14 contre 15, c'est dommage. Mais victoire donc de Montauban. Victoire 31-26.
Ouais, Loïc, hein, une victoire de Montauban, on va dire méritée sur l'ensemble du match. D'autant plus, comme le disait Christian, que le SA15 a joué quasiment toute la partie en supériorité numérique, ce qui normalement donne quand même un sacré avantage, et notamment à domicile. Que penser de cette seconde mi-temps et de ce match, Loïc?
Moi, j'étais, de toute façon, quand Montauban impose Viel comme ça. Montauban est infranchissable, hein, on va dire. Donc c'est très compliqué de gagner cette équipe-là avec un joueur qui a autant d'expérience et qui est très très bon. Là où j'ai été déçu, en fait, j'en ai pas parlé sur cette première mi-temps, mais à un moment donné, on était 15 et Montauban était 13. Et je crois qu'on a galéré je sais même plus combien de temps, mais pendant plus de 5-6 minutes.
Ouais, 8 minutes, moi j'ai compté à un moment.
8 minutes, ouais, à galérer, ouais, à marquer un essai, alors que on aurait pu prendre, moi j'arrêtais pas de le dire dans les tribunes, on devrait prendre les 3 points, ça nous faisait 3 points de plus, ça nous aurait fait 9, et ensuite, tu vois, 9 à 12, ça aurait fait, donc 9 à 12, en plus ils sont 13, donc il y a des espaces juste après, on peut jouer avec ces espaces-là pour ensuite marquer un essai. là malheureusement mais sur les 10 minutes où on était en supériorité, eh bien on a passé 6-7 à être à 5 mètres de la ligne comme ça pour essayer de marquer un essai avec que des pénalités, on retape en touche, on fait des mêlées et tout ça, ça fait perdre du temps. Montauban a été très bon là-dessus pour gérer son temps faible. En fin de match, c'était pareil aussi, quoi. Donc c'est ça qui est dommage dans cette équipe du SA15. Après, il y avait quand même pas mal de fautes aussi du côté des Angoumoisins. Mais bon, comme j'avais dit la semaine dernière, certes Laurent Cardona est arrivé pour la discipline, mais attention, on ne verra pas de grands changements encore pour le match de Montauban. On en verra plus pour le match de Mont-de-Marsan. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'avais prédit, mais je pense que tout le monde s'en doutait là-dessus. Mais bon, voilà, quoi. Après, ouais, c'est décevant de faire comme ça. On est à 15 contre 14 pour le dernier quart d'heure. Surtout que c'est un centre ou un ailier qui sort parce qu'il a fait un énorme plaquage sur Beau. Puis on n'a pas su concrétiser tout ça. À part si, il y avait eu un essai, mais après, il restait 10 minutes où on doit gagner, quoi. On doit gagner dans ces 10 dernières minutes. Et malheureusement, on prend un drop. Plus après une pénalité, quoi. On n'y était pas et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que après avoir marqué cet essai, on se voyait gagnant. Et ouais. Sauf que non, on se voyait gagnant parce qu'on était en supériorité, on s'est dit c'est bon, ça va le faire. Enfin, on dirait que c'était ça sur le terrain, alors qu'en fait pas du tout. Un match c'est 80 minutes et c'est en général c'est comme ça les équipes à 14 qui sont des fois les plus dangereuses, et c'est ce qui a été le cas, et malheureusement mais on s'est fait avoir là-dessus.
Ouais. Et alors moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la différence de gabarit au niveau de l'impact notamment. J'avais vraiment l'impression de voir cette équipe de Montauban très très largement supérieure au niveau physique par rapport aux joueurs du SA15 qui, à chaque impact finalement, reculaient. Et ça a été très compliqué. J'ai vu une équipe du SA15 buter sur une défense, même pas arriver à gagner 2-3 mètres, quoi. Jamais. Il y a eu très très peu de mètres gagnés sur cette défense montalbanaise, quoi.
C'est là aussi que tu vois la différence, comme tu as dit au tout début. Je crois que c'est pour la mi-temps que tu nous as dit là il y a quelques minutes, en disant que tu voyais une équipe de Pro D2 et une équipe de National. Ouais. C'est sûr que quand tu vois l'équipe, quand tu vois la taille des joueurs, c'est vrai que là, Montauban, c'était
costaud, quoi.
C'était tous des armoires à glace, quoi. Et nous, j'avais l'impression qu'on était plus un placard ou une table de chevet, quoi.
C'est ça.
Donc, c'était vrai. C'est vrai que c'était impressionnant. Mais après, ça veut rien dire. Si sur les impacts, on s'y donne et qu'on les fait peur, tout est remis en jeu, mais malheureusement je pense que je sais pas ce qui s'est passé au début, mais on n'y était pas du tout et ça passait mais comme ils voulaient, quoi. C'est ça qui était impressionnant et tout le monde râlait après ça, quoi.
Tout à fait. Bah, écoutez, messieurs, on va écouter la conférence de presse d'après match où Tanguy Cardrin s'épanche longuement sur les soucis quand même du SA15, notamment au niveau des blessés.
À la 30e du match, on a deux blessures successives qui font que entre Maxime Laforgue et Ben Boutica, on est obligé de faire des rotations et de se réorganiser totalement, sachant qu'on avait fait un banc 6-2, on n'avait pas d'ouvreur remplaçant sur le banc. Donc non, et puis on a une deuxième mi-temps qui est à l'image de ce qu'on veut faire, et on a une première mi-temps qui est vraiment à côté de ce qu'on voulait produire. On prend deux essais sur nos exits, donc la discipline, on est dans ce qu'on veut faire, sauf en fin de match où on fait deux fautes inutiles, carton de Ledoux. La pénalité sur la réception de jeu au pied contestable s'ajoute à un moment du match où on devenait plutôt dominant. Donc la discipline, il faut maintenir cette envie justement de rester dans ses standards. Mais on prend un essai où le ballon rebondit sur un poteau qui revient dans le terrain, un rebond hasardeux. On sentait qu'aujourd'hui le rebond du bon côté, il n'était pas là. Ça arrive. C'est très différent la sensation qu'on a entre aujourd'hui Et contre Dax, ouais, on a perdu, il y a des fêtes, mais on n'est pas défaitiste. Hein. Je me sens pas abattu. Au contraire, en fait, on sait qu'on va devoir construire les choses. On prend des points à chaque match. Ah oui, à domicile, quand on regarde les Britanniques, eh ben, ça suffit pas. Il va falloir aller gagner à l'extérieur. Donc, ce qu'on ne gagne pas chez nous, il va falloir aller chercher ailleurs. Et ça va falloir le construire. Et surtout, récupérer des joueurs de notre effectif. On est décimé. On a une infirmerie qui est pleine. On la re-remplit ce soir. C'est très compliqué. On s'entraîne dans des conditions difficiles parce que voilà, l'effectif est tendu et il faut gérer cette période délicate. Donc on va être vigilant pour pas reproduire ce qui s'est passé sur nos sorties de camp ce soir et éviter évidemment que ça se reproduise, mais surtout souligner encore une fois cette capacité à retrouver des ressources et se redonner la possibilité d'aller chercher la gagne.
Messieurs, bon, un Tanguy Cardin qui se veut bizarrement pas si défaitiste que ça, hein, qui parle beaucoup des blessés, etc. Bon, un petit peu du jeu, certes, mais voilà, pas grand chose finalement de nouveau par rapport à ce qu'on a vu et pas de grandes explications. Notamment sur ces difficultés à franchir et puis sur ces différences qu'on peut voir quand même entre l'équipe du SA15 et Montauban. Il a pas mis vraiment l'accent quand même sur l'importance d'avoir des joueurs d'une taille, comme tu disais, hein, un gabarit, etc. Voilà. Pour moi, ça m'a un petit peu étonné. Qu'en pensez-vous de cette conférence de presse, messieurs?
Bon, je pense qu'il essaye de positiver. Il y a pas forcément que des points négatifs, mais c'est vrai qu'on est qu'au sixième match, il reste encore 24 matchs, donc il faut quand même essayer de garder le cap, une ligne de conduite et puis surtout positiver. C'est vrai que si on commence à assassiner un peu tout le monde dès la sixième journée, derrière c'est une saison très longue, c'est aussi une vie de groupe avec les joueurs et puis avec le staff, donc c'est aussi important de et puis Tanguy Cardin, il a toujours été dans la mesure, il a toujours été dans l'empathie, c'est pas la personne qui va faire des sorties assassines, je pense, contrairement à Ruiz qui a l'air plus mordant entre guillemets là-dessus, j'ai l'impression. Mais après, c'est qu'une impression personnelle en ayant écouté que quelques conférences de presse. Donc voilà, après il dit des choses assez véridiques quand même, hein. Le fait de perdre des points à domicile, c'est quand même embêtant, ça oblige désormais le SA15 à aller gagner à l'extérieur, et puis effectivement la première mi-temps était pas du tout celle escomptée, et puis les blessures de Botica et de Jarmouni, en plus avec une configuration de banc avec beaucoup d'avant, fait que ça a été compliqué de s'organiser. Derrière, je pense que la Botica dépendance est là, comme le disait Loïc, derrière lui c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui fait le taf, surtout qu'en plus Glenna était pas sur le banc de touche, si je dis pas de bêtises.
Donc il était blessé, quoi.
Il était blessé. Ouais, il y a beaucoup de blessés, hein, ça c'est vrai,
ouais.
Mais bon.
Ouais, c'est un mauvais passage à passer. Malheureusement, c'est vrai que pour une reprise et puis surtout un match à domicile, on espérait un résultat tout autre. Maintenant, le résultat il est ce qu'il est, et va falloir rebondir sur les prochaines journées, hein, parce que il faut vite glaner un succès, et ça tombe bien, le SA15 rejoue à domicile sur la prochaine journée.
Ouais, Loïc, ce fut un mauvais passage à passer, hein, c'est ce que t'as dit, Christian. Est-ce que ce fut pas surtout une passage à tabac plutôt de la part de Montauban sur cette équipe du SA15?
Cette équipe de Montauban, c'est vrai qu'elle est surprenante, parce que elle a réussi à gagner Brive à domicile, Valence. Alors Valence, on dit que c'est un promu, mais bon, attention à Valence quand même, parce que c'est quand même une grosse équipe cette année. À Nevers, au début, ils gagnaient à Nevers, quoi. Donc ils ont quand même fait de bons matchs avant. Donc c'est vrai que cette équipe de Montauban, ça va être un sérieux candidat pour les phases finales. Ça va même être, je pense, un outsider là-dedans. Moi, après, sur le SA15, je trouve ça un peu inquiétant. Alors bon, j'espère que ça va vite se trouver des solutions, parce que bon, le reste du calendrier, franchement, c'est du lourd.
Ça fait peur, ouais.
Très lourd. Ouais, ça fait peur quand tu vois. Tu vois, je regarde là, les prochaines journées. Je pense que le prochain match où on peut être un peu plus tranquille, ça sera que mi-décembre maintenant. Parce que franchement, c'est recevoir Mont-de-Marsan, qui était demi-finaliste l'année dernière. Aller à Colomiers, c'est jamais facile à aller à Colomiers. recevoir Nevers, hein, qui est l'un des favoris de cette Pro D2. Ensuite, aller à Brive, qui est notre favori, recevoir Grenoble. Enfin, bon, c'est, je peux vous dire,
compliqué.
Il peut être très très long comme ça. Donc, ouais. Va falloir se remettre en cause très très vite. Les joueurs, mais je pense peut-être pas que les joueurs. Moi, je me pose pas mal de questions aussi aux alentours. Alors, j'espère que les nouvelles têtes comme Cardona va essayer d'y avoir de l'amélioration dans cette défense et dans cette discipline. C'est ce que j'espère pour le prochain match, parce que sinon, c'est vrai que même, tu vois, Christian, il dit que oui, on est qu'à 6 journées, il faut pas les enterrer. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est maintenant qu'il faut pas rater le virage, parce que
c'est sûr
qu'il faut pas se faire
décrocher. Après, ça sera trop dur. Non.
Quand on voit cette Pro D2 cette année comparée à l'année dernière, il y avait pas mal de victoires à l'extérieur. Cette année, il y en a très très peu des victoires à l'extérieur. Donc il faut surtout pas louper le coche, parce que sinon tu prends le mauvais wagon et ça peut aller très très vite après.
Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, merci. On a fait le tour de cette Pro D2. Il nous reste à donner les résultats de la Pro D2 et le classement. Nous n'aurons pas le temps vraiment de commenter le classement. Puis après tout, on l'a fait, elle a déjà plus ou moins. Donc, le Stade Montois recevait Aurillac. Le Stade Montois s'est imposé 34-9. Colomiers et Provence Rugby se séparent sur un nul 19 partout. Nevers recevait Béziers et s'impose 25-22. Vannes s'impose à nouveau à domicile face à une belle équipe de Valence Romand. Vannes s'impose 39-24. Rouen a été battu sévèrement par Biarritz, qui crée quand même une surprise, hein, aller s'imposer 46-13 à Rouen. Fallait le faire. Donc on l'a vu, hein, Montauban s'impose OS à 15, 31-26. Brive s'impose difficilement face à Dax, 15-12. Et enfin, Grenoble s'impose 24-19 face à Agen. Au classement, on retrouve Vannes premier avec 23 points. Deuxième, Provence Rugby, 20 points. Troisième, Montauban, 17 points. Quatrième, Agen, 15 points. Égalité avec le Stade Montois. Sixième, Nevers, 15 points. Septième, Valence Romand, qui est à égalité avec Grenoble et Brive. Ils ont tous les trois 14 points. Dixième, Biarritz, 13 points. Onzième, Dax, 12 points. Et ensuite, on retrouve à la 12e place, Colomiers, Béziers avec 11 points. Soyons Angoulême est donc 14e à égalité avec Aurillac au nombre de points, 10 points pour les deux. Et bon des derniers pour l'instant, 16e, Rouen avec 8 points. Messieurs, voilà, on peut qu'attendre mieux, mais bon, ce classement est encore très très serré. Comme tu disais tout à l'heure, il va pas falloir rater le virage. On va laisser une petite page de publicité et puis on revient tout de suite, hein, avec la Coupe du Monde et puis la fameuse interview d'Iñaki Ayarza.
Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Et nous sommes de retour dans le SA15 Mag Attitude. Surtout, restez avec nous, hein, dans quelques instants, l'interview exclusive d'Iñaki Ayarza depuis le Mondial. Dans 2-3 minutes, nous allons parler de ce Mondial, parce qu'il n'y a pas qu'Iñaki Ayarza, il y a également Nicolas Martins qui représente le SA15 et qui le représente très très bien, messieurs. On a encore vu un superbe match, et notamment une équipe du Portugal faire nul face à la Géorgie, et à Nicolas Martins qui n'en finit plus de c'est un rayon de soleil, hein, du SA15 à cette Coupe du Monde.
Ouais c'est vraiment la façon, on s'en doutait, nous les Angoumoisins, parce qu'on est tous derrière lui. Après, c'est vrai que ça, on commençait à parler un peu de lui, puis là maintenant on n'arrête pas de parler un peu de lui. C'est un peu la la petite surprise de la Coupe du Monde. C'est voilà, c'est lui qui se fait remarquer par rapport à d'autres joueurs. Alors, il y en a d'autres, hein, qui se font remarquer aussi, mais c'est vrai que lui là, il s'est vraiment fait remarquer. Ça fait vraiment plaisir pour le club d'avoir un joueur comme ça qui fait une belle publicité pour le SA15, et qui fait une belle publicité aussi pour le Portugal, parce que il faut rappeler quand même que le Portugal, c'est sa seconde Coupe du Monde de son histoire. Et c'est la première fois qu'il ramène des points. Deux points sur ce match nul. Donc ça fait plaisir pour eux. Et puis c'est une belle publicité aussi pour lui aussi. Là, franchement, là, lui, c'est tout. tout bénef, on se doutait que qu'il allait être comme ça, aussi aussi mordant et tout, et qu'il aurait faim. Et ben il est en train de montrer tout ça, et franchement ça me fait vraiment plaisir pour lui.
Christian, pareil hein, c'est l'éclaircie hein, du SA15, ces deux joueurs, Iñaki Ayarza, qui d'ailleurs a été encore très très bon face à l'Argentine, même si ça a été très compliqué hein, bien sûr, pour son équipe du Chili. Mais deux joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent, hein, Christian.
Oui, bah, par rapport à Iñaki Ayarza, il a fini sa Coupe du Monde puisque le Chili a fait ses 4 matchs. C'est vrai que collectivement, ça a été compliqué avec 4 défaites, 42-12 contre le Japon, 43-10 contre les Samoa, 71-0 contre l'Angleterre et 59-5. Alors c'est contre l'Argentine, c'est des scores bruts, mais sur chaque match, on a vu les Chiliens rivaliser pendant un temps, 20 minutes contre l'Angleterre, même le Japon et les Samoa, ils ont quand même été dans le match pendant plus d'une mi-temps. Et puis par rapport à Ayarza, je pense que c'est un des joueurs du Chili qui s'est fait remarquer sur cette Coupe du Monde, arrière, qui n'avait pas peur de relancer à la main, en plus pour un poste auquel il n'est pas forcément habitué au SA15, parce que c'est plus un centre ailier. Non, c'est bien pour lui, ça va lui faire un vécu personnel. Je pense que quand on participe à une Coupe du Monde, c'est enrichissant rugbystiquement, enrichissant personnel. Et comme je le disais la semaine dernière, j'espère que ces deux joueurs vont, quand ils vont revenir sur Angoulême, ils vont apporter à cette fraîcheur d'avoir participé quand même à l'événement planétaire de leur sport. On en saura plus dans l'interview d'Iñaki dans quelques minutes, mais en tout cas, je pense que pour lui, à titre personnel, c'est une Coupe du Monde plus que positif.
Tout à fait. Bah écoutez, on félicite Nicolas Martins et Loïc, je te laisse lancer cette interview d'Iñaki Ayarza.
Ouais, interview de Iñaki Ayarza. Eh bien, qui est arrière du Chili mais qui est centre du SA15. Il est avec nous aujourd'hui en collaboration avec Pause Rugby et Dorian. Bonsoir Dorian, bonsoir Iñaki.
Salut Loïc, salut à tous. Iñaki Ayarza, comment ça se passe un petit peu de votre côté du Chili pour cette première Coupe du Monde que vous effectuez historiquement avec le Chili?
Ça passe super bien, je vais pas te mentir, on est très heureux d'être ici. Un peu les résultats, ça va pas des longs côtés on dirait, mais on est très content d'y être ici et de pouvoir donner nos meilleurs.
Qu'est-ce que ça a fait quand on va revenir un petit peu le jour de votre qualification? Qu'est-ce que ça a fait de vous dire voilà, on se qualifie pour cette compétition, vous qui êtes passionné de rugby, c'est voilà l'ultime, le Graal un petit peu pour un joueur de rugby un peu.
Ah oui, c'est mon rêve. Franchement, c'est quelque chose que quand j'étais petit, je réalisais même pas, je croyais même pas possible de faire. Vu que j'étais chilien, on n'était jamais à la Coupe du Monde, la qualification ça passait super mal chaque fois. Je croyais même pas, donc pour moi c'était les rêves de juste aller voir la Coupe du Monde. Donc y participer là maintenant, c'est incroyable quoi. C'est un objectif que j'ai mis il y a longtemps en fait. Et c'est vraiment énorme de pouvoir être ici. C'est dur à réaliser un peu.
Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que vous avez réussi à réaliser peut-être lors de votre premier match quand vous êtes entré sur la pelouse, est-ce que vous avez réussi à réaliser peut-être avec vos coéquipiers aussi que vous êtes sur les pelouses de France pour jouer cette Coupe du Monde?
Ouais, peut-être le premier match, c'est vrai que c'était un peu compliqué, c'était la quantité des gens qui sont venus nous voir, les stades, même l'infrastructure, la manière qu'on arrivait dans les bus, escorté par la police, c'est des choses qu'on n'a jamais vécues, donc franchement, ça faisait des frissons, c'était bizarre pour nous, les joueurs, la plupart amateurs, en semi-pro, on dirait. Ici, c'est des choses que je crois qu'ils nous ont mis des mal pendant les matchs aussi. Mais c'est des expériences incroyables que je crois que ça ne se vit pas tout le temps en notre niveau. Quoi.
Alors, Iñaki, on a Loïc Lecavelet qui travaille pour Attitude FM, une radio Angoulême qui vous suit avec le SA15 notamment. Salut.
Ah oui.
Salut. Loïc. Ouais, ça va et toi?
Oui, ça va, merci.
On était intéressé par le parcours du Chili parce que c'est quand même un parcours très très intéressant. Donc j'ai entendu dire ouais que c'était fabuleux hein, que le Chili, et puis bon, on est tous contents qu'un pays comme le Chili, un pays d'Amérique du Sud, rejoigne la Coupe du Monde, un pays supplémentaire. Mais comment ça s'est passé cette qualification pour la Coupe du Monde là-bas? Est-ce que le rugby chilien est très populaire là-bas ou non? Parce qu'on peut voir dans les stades ici que vous avez énormément de supporters.
Ouais, c'est pas un sport super populaire. C'est même pas le troisième sport de Chili, je dirais. Mais c'est vrai que cette qualification a beaucoup médiatisé le sport. Et je crois qu'on a pris un élan qui peut-être des autres sport au Chili, ils sont un peu dans la manque de réussir sportivement, donc je crois qu'on a pris cet élan, on a pris un peu la place des autres sports en disant on est à la Coupe du Monde, quoi. Donc je crois que là, ça a beaucoup médiatisé, les réseaux sociaux ils sont beaucoup aidés, les sponsors après ça ils sont tous arrivés, donc c'est bien de pouvoir voir la sélection dans cet état qu'on est maintenant, vu qu'il y a pas beaucoup de... Il y a 3 ans précédents, on n'avait pas beaucoup de moyens, il fallait payer les propres billets pour y aller jouer avec, c'était compliqué, quoi.
Ouais, et ça fait quoi après pour les joueurs aussi de ton équipe, quoi, du Chili, parce qu'il y en a pas mal qui jouent dans ton pays là-bas au Chili. Ça fait quoi en fait ouais, pratiquement tous, je crois que vous êtes quoi, 2 ou 3 à ne pas jouer là-bas, quoi. Ouais. Est-ce que après le rugby là-bas au Chili est niveau j'ai envie de dire niveau ambiance que vous avez là-bas et les ambiances ici, est-ce qu'elles sont différentes?
Ouais, elles sont 100% différentes. Je me rappelle même quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Bayonne, je suis allé voir un derby, c'était le premier match quand je suis arrivé, c'était un derby un peu de deux via Bayonne Biarritz. Je comprenais pas comment il y avait autant de gens qui sont venus au stade à voir les matchs. Déjà, je savais pas que les derbies c'était une chose importante, donc aussi un peu de ma part, mais...
On t'a bien expliqué, je pense, quand même, non?
Oui, il y avait mon frère qui était pas pris pour ces matchs-là, mais il m'a bien expliqué avant, mais je comprenais pas trop. J'ai vu les stades pleins, les gens chantaient et tout, c'est un truc qui existe que dans les foot chez nous, quoi. Donc, c'était vraiment une ambiance complètement différente. Même la quantité de Chiliens qui ont arrivé ici à la Coupe du Monde, ça m'a surpris énormément. Pour nos matchs de préparation, les matchs qu'on a joués à des qualifications, on a réussi à amener 2000 à 5000 personnes, ça dépend les matchs, c'est face à l'Uruguay, une équipe un peu plus grande. Mais ici, ils sont arrivés 15 000, je crois, qui s'étaient comptés. Je sais pas le numéro exact, mais il y a une quantité de Chiliens énorme. Donc, ça m'a bien surpris. C'est trop beau à voir. Écouter chanter les chants chiliens qui sont normalement au foot dans les stades de rugby.
On l'a un peu vu à Bordeaux, notamment face au Samoa, où il y avait une grosse communauté. Il y avait même les communautés hispaniques qui étaient venues avec un maillot rouge, même si c'était pas le maillot du Chili, pour vous soutenir. On avait rencontré un artiste peintre, Mauro Ceballos, peut-être que vous avez croisé, qui faisait des tableaux de joueurs chiliens à l'encre de vin rouge de Bordeaux, qui a fait ça, en fait, pour en votre honneur, en fait. On a vu que... Ouais, on a vu qu'à Bordeaux, au pire sur Instagram, je vous enverrai la photo d'un tableau qu'il a effectué. À Bordeaux, on a vu que la communauté chilienne et hispanique était vraiment derrière vous pour vous soutenir. Je sais pas comment vous l'avez ressenti sur le terrain.
Ouais, on l'a vraiment ressenti. C'est ça que je viens de dire. C'est impressionnant pour nous voir autant de maillots rouges dans ce stade plein, quoi. On n'a jamais vécu comme ça. On n'a jamais vécu vraiment de ces stades pleins dans les rugby au Chili. Donc, on les tient en cœur. Je crois que ces matchs-là, on a fait nos mieux et on a gagné beaucoup de supporters aussi. Je crois que français à ce moment-là aussi.
Pour revenir au résultat, bon, est-ce qu'on y pense quand même quand on est compétiteur comme vous, ou est-ce que c'est en second plan tout de même? Comment ça se passe un peu pour ce secteur-là?
Il y a personne. Je crois qu'il y a aucune équipe qui rentre au terrain en pensant perdre. N'importe quel adversaire, on va essayer d'y gagner. Je crois que, par exemple, ces derniers matchs, on était compétitifs pour les premières 20 minutes et on était très bien. Après, on a lâché, ça soit physiquement, techniquement, on va pas rentrer dedans. Mais je crois que c'est un bon premier match pour nous face à une équipe des 6 nations. Je crois qu'avec les temps, avec plusieurs matchs contre ce niveau-là, peut-être des tournois ou des matchs de meilleure qualité, on peut arriver à tirer ces 20 minutes, à faire 40, de 40 à 60, et un jour, peut-être, pouvoir arriver à laisser avec des nations comme celui-là. Ouais.
Je l'ai regardé, ce match-là, ce Angleterre-Chili, et c'est vrai que j'étais agréablement surpris pendant les 20 premières minutes, et après, il y a eu ce premier essai en coin, et je crois que 3 minutes après, il y a eu un second essai. C'est quoi, en fait? C'est dû à la fatigue de l'accumulation des matchs, parce que ça faisait 3 matchs d'affilée que vous faisiez, je crois, et est-ce que c'était un peu comme une baisse de morale, je sais pas, ou est-ce qu'il y a eu un coup sur la tête derrière, ou comment ça se fait que ça a flanché comme ça d'un coup?
Je crois qu'à ce niveau-là, les fautes, tu les payes avec des CC. Je crois qu'il y a quelques fautes techniques pas fixé en des mecs spécifiquement, mais je crois que des fautes, peut-être la défense n'était pas si propre que ça, et avec des joueurs de la qualité qu'ils ont en Angleterre, ils se marquent à chaque fois. Peut-être face à des autres équipes, quand on joue les matchs de prépa, on a joué la Namibie, l'Uruguay aussi, on pouvait réhabiliter plus, parce que c'est des faux, c'est, ça se cache entre nous, parce que eux ils font, nous on fait, donc je crois que ça passe par là, c'est les qualités des joueurs, et des joueurs qui sont bien de ce style de situation, un milliard de fois, des mecs qui s'entraînent depuis qu'ils sont 15 ans dans des systèmes professionnels la plupart, face à nous, qui ça fait au moins maximum 4 ans qu'ils s'entraînent comme ça. Je crois que c'est là où on paye le professionnalisme. Eux, chaque opportunité qu'ils ont, ils marquent, et nous, on gâche plusieurs.
En tout cas, Iñaki, c'était un plaisir de t'avoir, de nous avoir accordé ces minutes pour parler voilà du Chili, de la suite de la Coupe du Monde. Vous allez rester encore combien de temps ensemble avant que tu repartes à Angoulême pour reprendre la direction de la Pro D2?
J'ai pas encore beaucoup parlé avec Angoulême. Je crois qu'ils m'ont laissé le temps de prendre plaisir dans cette Coupe du Monde. Mais sûrement, cette semaine, on va organiser. Mais je crois que je vais rentrer le plus vite possible. Franchement, j'ai envie de jouer avec Angoulême. J'ai envie de faire mes matchs en Pro D2 et... Donc j'espère pouvoir y aller le plus vite possible.
Il y a un projet intéressant.
Tu suis l'actualité d'Angoulême là ces derniers temps?
Ah oui, je suis énormément. Ouais. J'ai des super potes qui jouent à Angoulême, c'est mes copains, donc je suis tout le temps, je parle suivant avec les joueurs. Oui.
C'est un projet intéressant. Un projet intéressant parce qu'il y a un nouveau manager qui est arrivé, Alexandre Ruiz, qui était arbitre, qui arrive comme ça. Ouais. C'est un projet, c'est une nouvelle dynamique un petit peu à Angoulême. Voilà, je ne sais pas si tu l'as rencontré ou est-ce que tu étais avec le Chili peut-être à ce moment-là, mais c'est un nouveau projet qui arrive.
Oui, je suis parti avec le Chili avant qu'il arrive, donc je suis parti avant de commencer la prépa. Donc je n'ai pas encore croisé Alex, mais je peux lui parler de super bonnes choses. Je sais que ça travaille bien, ça travaille fort. Donc j'ai hâte d'y rentrer, pouvoir me mettre dans ces projets et pouvoir jouer, apporter au club le plus possible et pouvoir jouer la meilleure quantité de matchs possible aussi.
Merci Iñaki Ayarza de cette interview exclusive en collaboration avec Pause Rugby. Merci Fred, merci Christian pour cette émission du SA15 Magatitude. Cette semaine, pas de match pour le SA15. On se retrouve nous tous lundi prochain, 18h15, avec mes collègues rugbystiques Fred et Christian. Je vous dis bonne semaine à vous tous et à lundi.
Le SA15 Magatitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.